à travers la Bible. Une série d'enseignements tirés de la Bible, préparée par le Dr. Vernon McGee du ministère Through the Bible, produit par Trans World Radio. Réalisation Abdoulaye Sango. Présentation Marcel Mondiuto. Bonne écoute à tous.
Toute ma joie au Seigneur fidèle, c'est que l'on voit ton nom vainqueur. C'est que l'impie sauvé par toi s'écrie enfin. Je suis à toi, divin maître. Joël Goïta est à la prise de son. Le nom puissant du Sauveur suffit pour transformer le mal en bien. Jésus-Christ est le nom qui transforme les situations. Il apporte joie et paix là où le trouble et la méchanceté ont été semés. C'est ainsi qu'il m'a donné la joie et la gaieté. Même dans des situations impossibles, cette paix, cette quiétude demeure chez le disciple du Christ vivant. Quand les gens dans ce monde s'embrouillent et se suicident pour des causes qu'ils jugent insupportables, car la conscience les gronde, nous avons la paix, nous avons la vie et la joie. Mais la porte reste ouverte, car Christ appelle encore aujourd'hui. Déjà, correspondons. Note nos points de contact que voici.
À travers la Bible. À travers la Bible sur TWR. Vos commentaires et vos réflexions nous intéressent. Écrivez-nous à l'adresse suivante, à travers la Bible, 06 BP 21 31 Abidjan 06, Côte d'Ivoire. Téléphone 22 49 03 01. Mobile 00 225 05 51 49 06. Email twr2131@yahoo.fr. Site www.twrafrica.org.
Poursuivons l'examen du livre du Deutéronome au pied de Moïse, l'homme de Dieu. Précédemment, nous avons vu les lois sur la guerre. Maintenant, voyons le cas très étrange d'un homme pendu. Deutéronome chapitre 21, versets 22 et 23. Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort, et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu, et tu ne souilleras point le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. Voilà. Tout criminel qui meurt pendu au bois ne doit pas y rester toute la nuit. Parce que quiconque est pendu au bois constitue une malédiction. Il nous paraît étrange. Cela attire notre attention que cette loi soit mentionnée ici. En fait, la peine capitale en Israël était par lapidation. Apparemment, Israël ne considérait pas la pendaison comme la peine capitale. Mais ceci veut dire qu'une personne condamnée à mort par lapidation était ensuite pendue au bois. Cela s'appliquait aux grands criminels, aux criminels de la pire espèce, pour que chacun se rende compte qu'ils mouraient à cause de leurs crimes épouvantables. C'était un avertissement pour quiconque. Le corps devait être descendu à la tombée de la nuit et enterré. Ce criminel était un effet maudit par Dieu. Peut-être que Moïse et les enfants d'Israël n'ont pas compris la pleine signification de cette loi. Dans Galates chapitre 3, verset 13, Paul relève cette affirmation de la loi et l'applique à Christ. Il dit, « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. » Tu vois, à l'époque du Seigneur, il a été livré aux mains des Romains pour être exécuté. Parce que Rome gouvernait le pays, la peine de mort ne pouvait être appliquée que par Rome. Le Seigneur a été crucifié sur une croix romaine, appelée parfois un bois. Or, Paul relève ce fait et dit que lorsque Christ a été pendu au bois, il portait nos péchés et était par la suite une malédiction aux yeux de Dieu. Est-ce à cause de ses propres œuvres? Non, pas du tout. Il était devenu malédiction pour nous racheter de la malédiction de la loi. Il nous racheta de la malédiction du péché et il porta nos péchés. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il était une malédiction pour nous. Les gens n'ont pas à se quereller pour savoir si les Romains ou les Juifs doivent être tenus responsables de la mort du Seigneur Jésus-Christ. En réalité, toi et moi sommes responsables de sa mort. Oui, Christ a été fait malédiction pour nous. C'est ce qu'il a fait sur la croix qui nous rend responsables de sa mort. Le 22e chapitre du Deutéronome présente les lois diverses concernant les relations entre les frères, l'habillement, les codes de construction, les semences et le mariage. Ce chapitre introduit une autre section du livre du Deutéronome. Nous avons vu la répétition et l'interprétation des 10 commandements au chapitre 5, 6 et 7, puis les lois relatives à la religion et à la nation du chapitre 8 au chapitre 21. Maintenant, nous arrivons aux lois concernant les relations personnelles et domestiques, du chapitre 22 au chapitre 26. Plusieurs de ces lois sont destinées à la nation. Maintenant, le Seigneur va au cœur des problèmes que les hommes rencontrent, là où ils vivent, et il donne des lois concernant les relations personnelles et domestiques. Voyons les relations entre frères. Deutéronome 22, versets 1 et 2. Si tu vois s'égarer le bœuf ou la brebis de ton frère, tu ne t'en détourneras point. Tu les ramèneras à ton frère. Si ton frère n'habite pas près de toi et que tu ne le connaisses pas, tu recueilleras l'animal dans ta maison et il restera chez toi jusqu'à ce que ton frère le réclame. Et alors, tu le lui rendras. Actuellement, nous entendons beaucoup parler de l'attitude à avoir avec son prochain. Dans ce domaine, Dieu a une bonne politique pour son peuple à cette époque. Oh, je me rappelle que lorsque Franklin Roosevelt, président des États-Unis, présenta sa politique du prochain, tous les maîtres de la politique et les journalistes l'ont acclamé comme quelque chose de très nouveau. Ils ont salué Roosevelt comme une sorte de messie et pensaient qu'il avait découvert quelque chose de merveilleux. Puis-je te dire que cette politique du prochain remonte au temps de Moïse, et plus loin encore. Elle remonte au trône même de Dieu dans l'éternité. Et il est celui qui dit qu'il nous faut adopter une bonne politique du prochain. Et cette politique doit se manifester dans notre vie quotidienne. Deutéronome 22, verset 4. Si tu vois l'âne de ton frère ou son bœuf tomber dans le chemin, tu ne t'en détourneras point, tu l'aideras à le relever. Les Israélites ne devaient pas adopter une attitude de nonchalance envers leurs semblables, ni poursuivre leur chemin comme si le problème de leurs semblables ne les concernait pas. Ils devaient au contraire lui venir en aide. Ne te relâche pas. Porte secours à ton frère, à ton voisin. Voyons l'habillement. Deutéronome 22, verset 5. Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point des vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Oh, l'on dira que cette règle ne s'applique pas à nous aujourd'hui, parce que nous ne sommes pas sous la loi. C'est vrai, c'est vrai. Cependant, toutes ces lois établissent certains principes que nous ferons mieux de prendre en considération. Je suis peut-être en retard sur mon temps, mais je crois qu'aujourd'hui encore, une femme est plus à l'aise quand elle est habillée comme une femme et un homme habillé comme un homme, n'est-ce pas? Alors que mon épouse et moi rentrions en voiture chez nous, nous nous trouvions derrière une petite Volkswagen. J'ai constaté que la femme conduisait et que l'homme était assis à côté d'elle, et elle conduisait assez vite. En montant une côte, je l'ai doublée. Mais, sais-tu que je m'étais totalement trompé? C'est l'homme qui conduisait, et la femme était assise à côté de lui. Mais cet homme ressemblait tellement à une femme, et la femme tellement à un homme. Franchement, je ne vois pas l'intérêt de se comporter ainsi. Dieu nous créa hommes et femmes. Ici, le Seigneur dit qu'un homme devrait ressembler à un homme, et une femme à une femme. Nous avons beaucoup de problèmes aujourd'hui parce que les sexes essaient de se ressembler et d'agir de la même façon. Tu vois ça? Personnellement, je pense que la féminité paye très cher son existence des droits égaux. Dieu voudrait que les hommes traitent les femmes comme des femmes, c'est-à-dire leur donner beaucoup plus que des droits égaux. La femme est la femme et l'homme est l'homme. Voyons la protection des oiseaux. Est-ce important? Oui, oui. Deutéronome 22, versets 6 et 7. Si tu rencontres dans ton chemin un nid d'oiseaux sur un arbre ou sur la terre avec des petits ou des œufs, et la mère couchée sur les petits ou sur les œufs, tu ne prendras pas la mère et les petits. Tu laisseras aller la mère, et tu ne prendras que les petits, afin que tu sois heureux et que tu prolonges tes jours. Ah, il est merveilleux de voir que Dieu se soucie des oiseaux. Rappelle-toi que le Seigneur Jésus dit que pas un seul passereau ne tombe à terre sans que le Père le veuille. Matthieu 10, verset 29. Le Seigneur Jésus dit, « Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. » Matthieu 10, verset 31. Oh, comme c'est merveilleux! Si le Père se soucie d'un passereau, il connaît toutes choses en ce qui te concerne, et Dieu se soucie aussi de toi. Voyons les codes de construction. Deutéronome 22, verset 8. Si tu bâtis une maison neuve, tu feras une balustrade autour de ton toit, afin de ne pas mettre du sang sur ta maison dans le cas où il en tomberait quelqu'un. Comprenons qu'à cette époque, le toit de la maison servait à la fois de porte d'entrée, de terrasse et de tout ce que tu peux imaginer. C'était l'endroit où les membres de la famille s'asseyaient pour jouir de la fraîcheur du soir. Maintenant, Dieu dit que cet endroit doit comporter une balustrade, disons une clôture, tout autour afin que les petits-enfants et les adultes ne tombent pas. Sais-tu que c'est seulement récemment que nos nations ont établi des codes de construction destinés à la protection des personnes? Dieu n'est nullement un attardé, comme beaucoup semblent le penser aujourd'hui. Le Seigneur se soucie de la manière dont les hommes construisent même leur maison. Il veut que ta maison lui soit consacrée et soit aussi un endroit sûr. As-tu une clôture autour de ta terrasse? Protèges-tu tes enfants du danger de ce monde? Un grand nombre de parents laissent leurs enfants quitter la maison sans même savoir où ils vont. Beaucoup d'enfants s'en vont vivre dans les rues en groupe. Tu vois, la balustrade, la protection, n'a pas la place qu'elle devrait avoir dans nos foyers modernes aujourd'hui. C'est malheureux. Voyons la réprobation, le rejet de certains assemblages, de certains mélanges. Deutéronome, chapitre 22, verset 9. Tu ne semeras point dans ta vigne diverses semences, de peur que tu ne jouisses ni du produit de ce que tu auras semé, ni du produit de la vigne. L'on ne devait pas mélanger les semences. Deutéronome 22, verset 10. Tu ne laboureras point avec un bœuf et un âne attelé ensemble. Ce passage me paraît amusant. En réalité, j'ai vu cela en Israël. J'ai une diapo qui montre un cultivateur en train d'élaborer avec un bœuf et un âne attelés ensemble. Là-bas, ils font cela même aujourd'hui. Dieu dit qu'Israël ne devrait pas agir ainsi. Oh, quelqu'un me dira, qu'y a-t-il de mal en cela? Mais regarde, un bœuf est un bœuf et un âne est un âne. Et ils ne vont jamais ensemble, ces deux bêtes. Ils ne marchent pas du même pas, leur allure est différente et ils ne tirent pas ensemble. Cela nous prouve que l'Éternel n'apprécie pas les mélanges. Dieu ne les apprécie pas. Il en est de même pour le mariage. Dieu ne veut pas que des chrétiens se marient avec des gens non chrétiens. Malheureusement, j'ai vu un bon nombre de mariages qui m'ont fait penser à un bœuf et à un âne attelé ensemble. Une jeune fille chrétienne se mariant avec un inconverti ou vice-versa. Deutéronome 22, verset 11. Tu ne porteras point un vêtement tissé de diverses espèces de fils, de laine et de lin réunis ensemble. Sais-tu ce qui se produit avec un tel tissage? Au lavage, la laine se rétrécit, contrairement au lin, et cela fait un réel problème où la couleur rouge rentre dans le blanc ou dans le jaune. Deutéronome 22, verset 12. Tu mettras des franges aux quatre coins du vêtement dont tu te couvriras. Voilà, cette frange était en général bleue. Nous savons qu'elle était de cette couleur sur le vêtement du sacrificateur. Cette frange constituait le rappel de leur relation avec Dieu. Plus tard, les franges sont devenues le signe distinctif du judaïsme. Amis, Dieu avertit contre les mélanges. L'enfant de Dieu ne peut se mélanger avec le monde. J'entends des chrétiens dire qu'ils se rendent conformes au monde de façon à l'évangéliser. Permets-moi de te dire que ce n'est pas la bonne méthode d'atteindre les non-chrétiens. Mon ami, si tu entends dire que quelqu'un s'est converti parce qu'un chrétien s'est conduit comme le fait le monde, fais-le-moi savoir, je n'en ai jamais vu. Ne mélangeons pas les semences. Le bœuf et l'âne ne devaient pas être attelés ensemble. L'on ne devait pas mélanger la laine et le lin. Voyons le mariage. Deutéronome 22, versets 13 à 15. Si un homme qui a pris une femme et est allé vers elle, éprouve ensuite de l'aversion pour sa personne, s'il lui impute des choses criminelles et porte atteinte à sa réputation en disant « J'ai pris cette femme, je me suis approché d'elle et je ne l'ai pas trouvée vierge », alors le père et la mère de la jeune femme prendront les signes de sa virginité et les produiront devant les anciens de la ville, à la porte. Voilà. Nous avons une loi qui avait pour but, pour objet, de protéger l'épouse innocente des calomnies d'un homme impie et haineux. Cette loi n'existe plus aujourd'hui. Mais Dieu avait fait cet arrangement pour protéger l'épouse en de telles circonstances. Deutéronome 22, versets 20 et 21. Mais si le fait est vrai, si la jeune femme ne s'est point trouvée vierge, on fera sortir la jeune femme à l'entrée de la maison de son père. Elle sera lapidée par les gens de la ville et elle mourra parce qu'elle a commis une infamie en Israël en se prostituant dans la maison de son père. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Aujourd'hui, l'on parle de la nouvelle moralité et l'on considère les relations hors du foyer, les relations extra-conjugales, comme un grand progrès. Dieu a donné une loi strictement concernant la moralité sexuelle à son peuple Israël. La moralité donnée par Dieu a toujours été une bénédiction pour les nations. Et celles qui l'ont transgressé ont connu un sérieux déclin. Alors quand je pense à cela et à l'état de mon pays, je pleure sincèrement. Sous la loi de Dieu à Israël, quiconque était coupable d'adultère était lapidé à mort, que ce soit un homme ou une femme. Mais mon ami, si nous pratiquions cela ici chez nous, il serait impossible de conduire dans la capitale parce que partout, il y aurait des tombes dans la ville, car beaucoup commettent ce péché. Tu vois, Dieu honore le mariage et Dieu honore la pureté sexuelle. L'adultère en Israël devait être puni par lapidation. Ceci nous montre comment Dieu considère l'adultère. Souvenons-nous que l'amour de Dieu pour son peuple s'exprimait dans sa loi. Cette loi concernant la protection de la sainteté du mariage constitue un très bon exemple de son amour et de son souci pour la famille. Le 23e chapitre du Deutéronome nous présente le monde, la chair et le diable. Ce chapitre poursuit la section très intéressante des lois domestiques et les relations personnelles. Le monde, la chair et le diable sont les trois ennemis contre lesquels le croyant lutte sans relâche chaque jour, à chaque heure et à chaque instant. Nous vivons à une époque où l'on emploie un langage simple mais souvent grossier. Dieu, dans sa parole, utilise aussi un langage simple mais réglé. Là où la Bible traite des sujets très personnels, elle évite toute vulgarité. Le passage suivant comporte une leçon spirituelle très pratique pour nous. Lisons Deutéronome 23, verset 1. « Celui dont les testicules ont été écrasés ou l'urètre coupé n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. » Bien, voici une loi très étrange, inhabituelle, n'est-ce pas? Qu'est-ce que le Seigneur essaie de nous enseigner ici? Selon moi, ce verset parle de l'ascétisme, de ceux qui mortifient, qui briment leur corps par de dures privations. Une erreur condamnée par Dieu. Ce n'est pas ainsi qu'on doit agir. Au Moyen Âge, des hommes qui ont vu la corruption, la dépravation en Europe, en Asie et en Afrique du Nord, se sont détournés du monde, des choses de ce monde, et sont devenus des ascètes. Ils se sont retirés dans des monastères, disons dans des couvents, pour fuir le monde. Honnêtement, on ne pouvait certes pas les blâmer d'agir ainsi à cette époque. Mais comprenons qu'il s'agit d'un comportement extrême. Et Dieu nous met en garde contre cette pratique. Dans le protestantisme, l'on trouve aussi le même type de légalisme. Il y a ceux qui pensent vivre la vie séparée. Toutefois, je n'ai jamais vu l'un d'eux joyeux. En réalité, certains d'entre eux sont même dangereux. Ils agissent de façon très pieuse et ont l'air très choqués quand l'on fait mention devant eux de tout sujet profane. Mais j'ai découvert que ces mêmes personnes peuvent entretenir des paroles malsaines et même se montrer malhonnête dans les affaires. J'ai fait une expérience amère avec un petit groupe de chrétiens dits séparés, qui se sont conduits de façon totalement malhonnête. Voilà, nous nous arrêtons là, que le Seigneur soit avec toi, qu'il te bénisse. À bientôt.
À travers la Bible, un enseignement du docteur Vernon Magee du ministère Through the Bible, une production de Trans World Radio. Pour tout contact, écrivez-nous à l'adresse suivante: à travers la Bible, 06, boîte postale 2131, Abidjan 06, Côte d'Ivoire. Je répète, à travers la Bible, 06, boîte postale 2131, Abidjan 06, Côte d'Ivoire. Téléphone 22 49 03 01. Je dis bien 22 49 03 01. Que Dieu vous bénisse.